Radio Okapi. Grande interview.
Processus électoral en cours, plus nous avançons vers les élections du 23 décembre 2018, plus les candidatures à la présidentielle prochaine ne font que se manifester. Après celle de Moïse Katumbi, Noël Tchiani et Alphonse Toumba Louaba, vient le tour du professeur Jean-Paul Moka d'annoncer sa candidature à la présidentielle. Ce dernier croit pouvoir changer la RDC dans les 100 premiers jours, une fois au pouvoir. Et il propose donc un plan Marshall pour sauver la RDC. En quoi consiste son plan? Grande interview reçoit dans ce numéro le candidat à la présidentielle de 2018, le professeur Jean-Paul Moka. Avec lui, nous allons parler notamment de ses motivations, de sa vision, mais aussi de l'évolution du processus électoral en cours. Produite avec le concours de Alain Irung et Dona Madimba sous la supervision de Jean-Marc Matouaki, cette émission vous est présentée par Michel Kifindangoy. La prise de son est signée Polydor Basunga. Merci de rester à l'écoute. Fidèles auditeurs des radios Okapi, bienvenue à ce nouveau numéro des grandes interviews qui se penche sur le plan Marshall Moka pour le développement de la RDC. Nous recevons donc avec joie dans ce studio son auteur, le professeur Jean-Paul Moka, candidat à la présidentielle du 23 décembre 2018. Professeur Jean-Paul Moka, bienvenue dans Grande Interview.
Merci beaucoup.
Avant toute analyse, je vous propose de suivre le portrait du professeur Jean-Paul Moka, rendu ici par Dona Madimba.
Portrait.
Détenteur d'un doctorat en sciences politiques et professeur d'économie, Jean-Paul Moka navigue depuis plusieurs décennies maintenant entre ces deux disciplines. De 1997 à 2017, Jean-Paul Moka est PDG de Eben Bank et Stargate. 2001 à 2002, il est conciliateur et médiateur du pré-dialogue intercongolais avec le président botswanais Ketumi Lemasiré. En 2005, il fonde le parti politique Mouvement Bleu. En 2011, Jean-Paul Moka est candidat à la présidentielle en RDC. Il revendique détenir un plan de développement de la RDC à l'image du plan Marshall. Jean-Paul Moka revendique également la co-médiation à la crise congolaise avec le président ghanéen John Kufuor entre 2012 et 2013. Père de 5 enfants, Jean-Paul Moka est aussi un ancien de John Fitzgerald Kennedy School of Government de Harvard aux États-Unis et de la St. Andrew University en Écosse.
Portrait.
Alors, professeur Jean-Paul Moka, vous êtes candidat à la présidentielle de 2018. Qu'est-ce qui a motivé votre candidature?
Le 17 août 2003, vers 8h du matin, j'étais à Kinshasa et j'étais totalement dépité, triste de voir cette pauvreté autour de moi. Et j'ai dit au Seigneur, j'ai dit non, pourquoi ce pays est si riche et ce peuple si pauvre? Si je n'ai pas une réponse aujourd'hui, moi et toi, c'est terminé. Et c'est ainsi que dans ce dialogue spirituel, Dieu va me conduire dans une conversation qui va m'emmener d'abord dans le psaume 23 du roi David, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». De là, Dieu va me poser un certain nombre de questions, ensuite me montrer qu'en réalité, il a placé des bergers pour s'occuper des besoins des brebis. Ce n'est pas Dieu qui va venir arranger le Congo à notre place, mais il a besoin d'hommes disposés pour faire ce travail. Et ces hommes, ce sont les leaders, parce qu'au Congo, il a déjà tout donné. Ensuite, il va m'emmener dans Genèse, au chapitre 2, du verset 10 au verset 14, pour finalement me démontrer que le fameux jardin d'Éden ne peut être que dans notre pays, la République démocratique du Congo. Ce sont des explications qui sont longues, mais je peux vous assurer très convaincantes. Parce qu'en effet, la source du Nil se trouve de nous. En effet, le pays d'Avila, où l'on trouve de l'or, l'or est pur, le bdellium, la pierre de Nyx, c'est bien chez nous et il n'y a que chez nous. Et le jardin d'Éden ne pouvant être que l'Amazonie ou la forêt équatoriale, il n'y a qu'un seul pays parmi ceux qui sont traversés par la forêt équatoriale qui sont dans l'Éden. C'est une longue démonstration, comme je disais. Et donc de là, je comprendrai que je suis le propriétaire terrien de cette terre exceptionnelle où Dieu avait une relation spéciale avec Adam et Ève. À partir de là, je déciderai de prendre mes responsabilités et donc de jouer ma note de musique pour l'accomplissement de cette vision pour notre pays. parce que nous savons très bien que là où Dieu veut faire quelque chose, l'ennemi essaye toujours de détourner la mission. Et ça fait 600 ans que le peuple congolais est détourné de sa mission, qu'il est martyrisé, qu'il est humilié, qu'il est dépouillé de toute chose. Et j'ai accepté ce jour-là de commencer à préparer mon pèlerinage vers le chemin du leadership pour sortir ce pays de là où il est. Donc c'est là où mon aventure a démarré, je dirais, puisque c'est en 2017 que j'aurai une confirmation que c'est cette fois-ci que je dois me présenter.
Vous semblez être très convaincu par cette mission d'aller vers la présidence de ce pays, mais votre conviction en est une chose, l'approbation du peuple congolais en est aussi une autre. Croyez-vous être en mesure de vous faire connaître et gagner la confiance des Congolais en si peu de temps?
Vous savez, quand une parole inspirée est donnée, quand une parole vraie est donnée, même le vent participe à le propager. Vous savez, il y a presque 20 millions de Congolais qui m'écoutent aujourd'hui. Il suffit qu'il y en ait 5 millions seulement qui soient convaincus de ce qu'ils ont entendu aujourd'hui. Et je peux vous assurer qu'ils vont propager cette bonne nouvelle de la restauration de notre pays dans tous les villages de la RDC. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire, je crois d'abord en la puissance invisible qui guide les grands hommes, ceux qui sont appelés à changer les destins de leurs compères. Ensuite, il ne faut pas oublier que j'ai quand même un parti politique, le mouvement bleu, dans lequel d'ailleurs le bleu du ciel, le bleu de l'espoir, et puis une coalition qui m'aide à former cette marche vers la victoire. Eh bien, sans vous donner des détails, parce que ce sont des questions stratégiques, nous sommes dans chaque village de la RDC. Et je pense que ce sera une grosse surprise lorsque les gens vont connaître qui sont les membres de cette coalition. C'est clair que pour le moment, le message n'est pas encore arrivé dans chaque village, mais d'ici là, chacun d'entre nous dans la coalition prendra la responsabilité de donner ce message. Et en 8 mois, bien sûr, le travail peut être accompli. Et puis d'autre part, pendant ces 8 mois, je compte circuler, Dieu voulant, par jet privé dans les 26 provinces et partager ce message avec la population. Je peux déjà vous dire que au niveau de Kinshasa et au niveau de la province du Bandundu, les résultats sont concluants. J'ai une grande confiance dans ce que Dieu est en train de faire au travers de ce travail.
En jet privé, pensez-vous mobiliser tous les moyens qu'il vous faut? Est-ce que vous avez les moyens pour ça?
Vous savez, on ne gagne jamais un match tout seul. C'est une équipe. Et j'ai pu avoir la grâce de convaincre des personnes autour de moi qui, eux, ont la capacité de pouvoir mettre un jet privé à ma disposition au moment opportun pour que je puisse faire ce déplacement.
Alors, pensez-vous être en mesure de relever le défi et amener ainsi la RDC au développement?
Vous savez, diriger un pays, c'est une mission très, très, très particulière. Diriger un pays comme la RDC, qui est le Jardin d'Éden, c'est une mission très, très, très particulière. Il faut être préparé spirituellement, il faut être préparé intellectuellement, il faut être préparé émotionnellement. Et cette préparation, j'ai bien l'impression que beaucoup de gens ne le font pas. Ils se retrouvent au pouvoir par le hasard de la vie et ne sont pas prêts à faire ce qu'il faut parce qu'ils n'ont pas eu le temps de se préparer. Moi, ça fait 17 ans que je prépare le plan Moka. Il faut le dire que la misère de ce peuple qui est le mien me touche profondément. Je ne vais pas m'attarder trop là-dessus, mais en tout cas, je suis réellement convaincu que c'est le moment de relever ce défi.
Il vous faudra combien de temps pour ça?
Je pense qu'il ne faut pas plus de 5 ans pour que le Congo ait déjà un visage totalement différent. Et je vais vous en donner une petite preuve. Prenez le prix du pain. Aujourd'hui, à Kinshasa, vous achetez un pain à 300 francs. Eh bien, nous pouvons réduire le prix de ce pain à 50 francs. Et comment? D'abord, s'il y a la lutte contre la corruption, ça veut dire que nous avons ramené de l'argent dans la caisse de l'État. Nous pouvons donner des prêts spéciaux à ces usines qui fabriquent le pain avec certaines conditions. Première condition, vous baissez le prix à pas plus de 50 francs. Vous augmentez le volume de ce pain par 2. On peut baisser les taxes de ces entreprises, mais on ne peut baisser les taxes que lorsque l'État a des moyens suffisants. Or, il se fait que nous sommes à l'ère de la 4e révolution industrielle, qui est la révolution du cobalt. Et ce cobalt est réellement la manne divine. Donc en 5 ans, on peut transformer totalement ce pays.
Vous êtes à l'écoute de Radio Okapi. Grande interview reçoit ce jour le professeur Jean-Paul Moka, candidat à la présidentielle du 23 décembre 2018. Avec lui, nous parlons à présent de son plan Marshall pour le développement de la RDC. Professeur, vous avez publié un plan Marshall pour le développement de la RDC et vous-même, vous veniez de le dire tout à l'heure, vous avez eu 17 ans pour préparer ce plan. En quoi va consister ce plan ?
D'abord, c'est la lutte contre la corruption. Il y a 50 milliards de dollars qui disparaissent dans les poches de certains individus au niveau de notre richesse pétrolière. Il y a 30 milliards qui disparaissent dans les poches de certains individus au niveau de nos richesses minières. Il y a 14 milliards, selon l'Ouzoulou-Mbambi, qui disparaissent dans les poches des gens dans le blanchiment de l'argent. Et puis, il y a tout cet argent qui disparaît dans nos régies financières. Nous devons mettre fin à ces choses et dès que nous avons récupéré cet argent, je parle ici de 100 milliards et non pas 100 millions, hein, puisqu'aujourd'hui nous avons un budget de 5 milliards, alors qu'en Angola, une petite province a un budget de 10 milliards et qu'au Rwanda récemment, il y a 3 mois, ils ont fait passer le budget de l'agriculture de 3 milliards 200 millions. Donc vous comprenez très bien qu'un pays comme le nôtre, avoir un budget de 100 milliards, ce n'est pas grand-chose. Et donc, quand nous avons récupéré cet argent, il nous faut d'abord reconstruire notre armée et notre défense, les services de sécurité. Ces services ont besoin de 3 milliards et demi. Moi, je mets à la disposition 27 milliards qui nous permet d'abord de réduire les effectifs. Nous avons environ 150 000 personnes. Il faut les réduire à 30 000, mieux les former, multiplier leur base salariale, c'est-à-dire les payer beaucoup mieux et surtout les former mieux. Avec cet argent, il y a largement assez pour faire le travail et puis les outils technologiques pour protéger nos frontières. Vous savez qu'aujourd'hui, on ne protège plus les frontières en mettant 1000 personnes tout au long de la frontière, mais on les protège avec les drones, avec les satellites, etc. Et donc, on sait intervenir de manière ciblée, comme me l'ont si bien conseillé les forces militaires israéliennes, qui sont très spécialisées dans le secteur. Les 120 000 soldats qui ne sont pas utilisés dans les services, nous pouvons les utiliser pour les services aider à construire les ponts, les hôpitaux et les maisons. Toutes ces choses qui participent au développement du pays, mais en même temps renforcent la relation de confiance entre la population et l'armée. Ensuite, c'est le volet social. Là, je consacre 25 milliards de dollars. 25 milliards de dollars pour faire quoi ? Eh bien, il y a d'abord 18 milliards que nous utilisons pour ceux qui travaillent, comme c'est votre cas, les salariés, et puis 7 milliards pour les chômeurs. Je m'explique. Aujourd'hui, vous travaillez. Je ne sais pas quel est votre salaire. J'invente. Admettons que vous gagnez 1000 dollars par mois. Eh bien, nous rajoutons une allocation de soutien de 500 dollars. Et ces 500 dollars, nous retirons les frais pour payer l'eau à votre place. Nous retirons l'argent pour payer l'électricité à votre place. Nous retirons l'argent pour payer les soins de santé. Donc, c'est ce qu'on appelle la mutuelle de santé pour vous, pour madame, pour les enfants. Et nous retirons également l'argent pour un prêt hypothécaire. C'est-à-dire, vous voulez acheter une maison, vous allez à votre banque. La banque vous donne l'argent pour construire une maison. En moyenne, 4 chambres et un beau petit jardin. Évidemment, une maison moderne. Nous produisons simplement une garantie à cette banque. Et vous faites ce que vous avez à faire et vous payez cet argent grâce à ces 500 dollars dont je parlais. Nous retirons plus ou moins 150 dollars tous les mois pendant 15-20 ans. Mais en tout cas, c'est votre maison. Eh bien, ça, c'est le plan Moka. Et ça, il vous reste encore 250 dollars que nous rajoutons à vos 1000 dollars. J'ai parlé des chômeurs. Eh bien, un chômeur, qu'est-ce qu'on fait pour l'embaucher ? Ce n'est pas si compliqué que ça. Un étudiant qui a terminé ses études mais qui ne trouve pas de travail, il doit être embauché par une entreprise ou par les services publics. L'entreprise doit être motivée pour le prendre en stage. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut réduire les charges fiscales de l'entreprise. On embauche cet étudiant. L'étudiant va apprendre un métier, avoir un per diem quand il rentre à la maison, manger et boire quand il est dans l'entreprise. Et quand il termine un an plus tard, il peut être réembauché dans l'entreprise, mais vous devez encore réduire les charges fiscales de l'entreprise. Donc, nous créons de l'emploi.
Si je vous ai bien compris, le plan Moka
se base sur la lutte contre la corruption. Pensez-vous réellement que vos prédécesseurs n'ont pas eu les soucis de lutter contre la corruption? Vous pensez que ça va être une tâche facile pour vous?
Vous savez, si vous demandez à ceux qui aujourd'hui sont devenus champions de la lutte contre la corruption, ici je pense par exemple au président du Ghana, le président Nana, il y en a d'autres qui sont juste à côté de nous que je ne citerai pas le nom ici, ils ne se sont pas posé la question pourquoi est-ce que les autres n'ont pas su faire ce que moi je sais faire. C'est d'abord une question de volonté politique. C'est une question aussi spirituelle. On ne peut pas lutter contre la corruption si spirituellement on n'est pas préparé à cela. Or, quand on lutte contre la corruption, c'est parce qu'on sait que cet argent-là appartient au peuple, ça n'appartient pas à une clique de personnes. Les Américains l'ont fait aussi aux années 20, en créant les équipes qu'on appelait les Untouchables. Donc, ce sont des choses qui ont été faites ailleurs, qu'il y a moyen de faire dans notre pays, et que j'ai bel et bien l'intention de faire, parce que tout mon plan repose là-dessus, même mon plan d'agriculture, puisque j'ai un plan majeur pour l'agro-industrie, sans pour autant éliminer les petits producteurs, parce qu'il faut les préserver, il faut les protéger, mais c'est basé sur la lutte contre la corruption. Donc, si je ne lutte pas contre la corruption, je n'aurai pas assez de ressources. Et j'insiste, l'argent dont j'ai parlé ici vient de la RDC. Ce n'est pas de l'argent que j'ai emprunté à l'extérieur. C'est de l'argent qui est produit en RDC grâce à la lutte contre la corruption.
Alors, professeur, la RDC connaît beaucoup de menaces sécuritaires, notamment dans la partie Est. Les groupes armés, malgré l'intervention des Nations Unies, continuent toujours à faire leur loi là-bas. Aujourd'hui, on parle dans le Nord avec la problématique des eaux de la rivière Ubangi. C'est une autre guerre qui se projette à l'horizon. Que préconisez-vous à travers votre plan, enfin, pour pacifier et stabiliser tout le territoire national?
Mais nous savons tous quelles sont les nations qui nous causent le plus de problèmes. D'abord, il faut comprendre la psychologie de ces nations. Pourquoi est-ce qu'ils nous causent ces problèmes? Si nous prenons l'exemple du Rwanda, le Rwanda nous cause ce problème pour deux raisons majeures. D'abord, il y a leur sécurité avec les Interahamwe. Or, nous savons que la chose est floue dans notre pays, puisque on dit que il y a des collaborations qui existent entre ces forces et notre armée, et on le voit sur le terrain, et donc les Rwandais ne se sentent pas à l'aise. Et puis, il y a également la raison économique. Dans la raison économique, ils viennent prendre nos richesses pour le vendre au plus offrant à l'extérieur. Or, dès le moment où ma politique pour l'armée et pour les forces de sécurité, comme je l'ai décrit plus tôt, permet de sceller nos frontières, permet de rationaliser nos caisses, puisque la corruption est interdite. Donc on ne sait pas soudoyer nos officiers, on ne sait pas soudoyer ceux qui sont là à nos frontières pour les protéger. Eh bien, ensuite, il faut construire une relation avec ces nations. Ce ne sont pas nos ennemis, ce sont des Africains comme nous avec qui nous avons eu très bonnes relations dans le passé. Mais ça, c'est une capacité humaine de pouvoir construire ce type de relation-là. Donc on n'est pas seulement là pour dire au Rwanda, l'Ouganda et aux autres de ne pas entrer dans notre territoire, mais on est également là pour rassurer ceux qui sont en face de nous. Dès le moment où nous donnons les gages du sérieux dans la gestion de notre République, de nos frontières.
Vous risquez tout de même d'avoir des sérieux problèmes au niveau de la réforme de notre armée. Comme vous savez, il y a beaucoup de militaires qui dépendent de leur chef directement et non de l'autorité publique. Apparemment, la RDC est comme un pays sans autorité, mais les individus semblent être plus puissants que la loi.
Vous savez, il nous faut des institutions qui sont plus fortes que les individus. Dans la réforme de l'armée, il faut une relation sincère, forte, entre le chef de l'État et ceux qui dirigent nos forces armées. Quand il y a cette relation-là, et je peux vous assurer que j'ai d'excellentes relations dans l'armée et dans nos services de sécurité, quand leurs besoins sont pris en compte, parce qu'on ne peut pas demander à un policier de vivre avec 75 000 francs par mois alors qu'il a 6 enfants qu'il doit envoyer à l'école, ça ne tient pas la route, ça n'a pas de sens. Et donc quand les forces de l'ordre vous respectent, vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui vont changer.
Alors que le pays est qualifié de scandale géologique, sa population croupit dans une misère indescriptible, que comptez-vous faire pour mettre fin à ce paradoxe?
Je vous ai dit au début que c'est là où a commencé ma marche, lorsque j'ai été interpellé par le Seigneur et lorsque j'ai accepté de prendre cette charge. La solution, c'est le plan Moka, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Moi, j'ai commencé ceci en 2001, entre le mois de mai et le mois de novembre. C'est là où j'ai commencé mon fameux plan Marshall, qui aujourd'hui s'appelle le plan Moka. Ensuite, en 2002, je l'ai défendu devant le premier ministre britannique, Tony Blair. Et en 2008, je l'ai défendu devant le Parlement finlandais. Donc, il y a des traces de ça. Jusqu'en 2013, lorsque je l'ai déposé au bureau du chef de l'État, au mois de mai 2013. Et je peux dire, sans fausse modestie, que je suis le premier Congolais à avoir sérieusement travaillé sur un plan Marshall qui aujourd'hui qui s'appelle le plan Moka pour notre pays.
Vous venez de nous rejoindre en cours d'émission. Grande interview sur Radio Okapi reçoit ce jour le professeur Jean-Paul Moka, candidat à la présidentielle prochaine. Avec notre invité, nous évaluons à présent le processus électoral en cours. Professeur Jean-Paul Moka, croyez-vous réellement à la tenue des élections à la date du 23 décembre prochain?
Oui, et encore oui, parce que nous n'avons pas le choix. Il n'y a pas de choix. Nous devons tenir les élections le 23 décembre 2018. Et j'y crois parce que, d'abord, tout le monde veut absolument que les élections aient lieu le 23 décembre 2018. Je vous rappelle que ce sont des élections que nous devions avoir en décembre 2016. Donc, arrêtons de jouer avec cette histoire. Alors, maintenant, les résolutions des Nations Unies sont là. Le mouvement bleu a été invité par la MONUSCO. J'ai rencontré Madame Leila Seroghi. Nous avons parlé de ce problème. Il y a les résolutions qui leur donnent le pouvoir d'organiser un autre tour de table. Appelons-le comme il est, le dialogue. Mais ce dialogue ne sera pas pour distribuer des postes. Ce dialogue sera pour s'assurer que le 23 décembre, on ne passe pas à côté, s'assurer que certains problèmes que vous connaissez, machines à voter, etc., etc., soient réglés, et que le 23 décembre, sans faute, nous allions aux élections.
Aujourd'hui, la crédibilité du processus électoral semble être entachée. Deux problèmes majeurs divisent la classe politique. Il n'y a pas encore de consensus. C'est notamment la question de la machine à voter, mais aussi du fichier électoral récemment publié. Que pensez-vous donc du fichier électoral publié par la CENI?
Je vais certainement aller à contre-courant de l'opposition ici. Moi, je l'ai toujours dit, le mouvement bleu n'est pas un parti d'opposition. Et c'est ici que je vais le prouver. Nous sommes un parti indépendant. Nous ne faisons ni partie de la majorité, ni de l'opposition. Pourquoi? Parce que nous savons que dans la majorité, on a tous vu les résultats, plutôt insuffisants. Et dans l'opposition, on a tous vu la gourmandise, prêt à sauter sur un poste à la première offre. Et ils font plein de réunions en cachette. Et lorsqu'on le découvre, ils nient. Mais la nuit, ils sont tous en train de négocier pour avoir des postes. Nous sommes un parti indépendant. Il ne faut pas prendre M. Nanga et la CENI comme un punching ball. Les excuses, on les trouve sur la CENI. Et donc, non, moi j'ai confiance à M. Corneille Nanga. Je dis ceci, le fichier électoral, on a enregistré 46 millions. Aujourd'hui, on nous parle de 40 millions. On dit 6 millions ont été identifiés. Mais pourquoi est-ce que vous voulez condamner M. Nanga pour avoir repéré les tricheurs? Ce n'est quand même pas lui qui est allé dans les villages pour demander aux gens de tricher. Ce n'est quand même pas lui qui dirige certains partis politiques qui ont demandé à leurs partisans bébés d'aller voter, d'aller s'enregistrer. Ce n'est pas M. Nanga. M. Nanga a fait son boulot de gendarme en identifiant que un tel, c'est un doublon, un tel n'a pas l'âge. Il a fait son boulot, s'il vous plaît. Arrêtez de l'embêter avec cette histoire. Il faut dire à la population que M. Nanga a demandé à toutes les entreprises et tous les partis politiques qui veulent auditer le fichier de venir. Il y en a combien qui ont envoyé leurs experts là-bas? Il y a un appel d'offres qui va sortir ici d'ici quelques jours. Le problème ne se trouve pas au niveau de M. Nanga. Le problème se trouve à notre niveau, à nous. C'est-à-dire, on nous a tellement roulé dans la farine qu'on n'a plus confiance en personne et on met tout le monde dans le même sac. Moi, j'ai confiance en M. Nanga.
Alors, pensez-vous que la machine à voter pourrait entacher à la crédibilité du processus électoral en cours?
Mais ça aurait pu. Et je suis sûr que ça aurait fait plaisir à beaucoup de gens. Moi, je vous dis tout de suite que ça ne me fait pas plaisir de savoir que le seul outil aujourd'hui qui est vraiment disponible pour nous permettre d'évoluer est critiqué à tort et à travers. Oui, on a entendu parler de ci, de ça, la Corée, j'en passe. Mais M. Nanga a dit récemment qu'il attend qu'on vienne auditer cette machine à voter. Il y a des appels d'offres qui sont faits.
Mais elle n'est pas légale.
Bon, au niveau de la légalité, ça, je suis prêt à reconnaître qu'il y a un trou là-dedans. Ouais. Ça, je suis prêt à le reconnaître. C'est un débat qui est valide, mais c'est un débat qu'on aurait dû avoir beaucoup plus tôt. Parce que je vous rappelle que nous avons quand même des parlementaires d'opposition qui sont au Parlement.
Hein, donc, au Parlement, on leur avait garanti que cette question n'est pas d'actualité, il n'y aura pas question de machine à voter.
Bon, ça c'est quand même intéressant de savoir qu'à ce niveau-là, il y a eu entourloupette, c'est le mot qu'on peut prononcer ici. Ouais. Et je pense qu'au cours de ce dialogue, on peut discuter de ce point-là. Mais dès l'instant où cette machine à voter est auditée par la Grande-Bretagne, puisque la Grande-Bretagne va venir pour l'auditer, par des compagnies crédibles, dès le moment où le résultat de cet audit sort et qu'on nous dit non, ici il n'y a aucun problème, c'est bon, vous pouvez l'utiliser, ben qu'on l'utilise et qu'on aille de l'avant. Mais c'est vrai que vous venez de soulever un point très important qui est celui de la légalité de cet instrument. Et là, Monsieur Nanga parle d'une imprimante. Donc, c'est à discuter.
Il y a aussi un autre problème. Avec la machine à voter, est-ce qu'on peut facilement apporter des preuves au niveau du contentieux électoral? Et là, je voudrais qu'on parle aussi, tout en passant, de la Cour constitutionnelle, d'ailleurs, qui est censée régler le problème du contentieux électoral de l'élection présidentielle et législative nationale. Aujourd'hui, une Cour constitutionnelle presque divisée, avec des magistrats qui démissionnent et d'autres qui décèdent. Qu'en dites-vous?
Ben, vous savez, nous savions tous que la Cour constitutionnelle était déjà acquise à la cause de la majorité. Hein. Ça, c'est un secret de Polichinelle. Maintenant, avec les deux démissions et la mort de l'un d'entre eux, ils vont certainement être remplacés par des purs et durs qui, eux, ne vont pas faire défaut aux injonctions de la majorité. Et ça cause un problème, cette Cour constitutionnelle. Et je pense que ça doit être un des points importants lors du prochain dialogue. Nous attendons l'arrivée du secrétaire général des Nations Unies qui a reçu mandat de régler ce dernier problème de dialogue pour que nous allions aux élections pour le 23 décembre. Maintenant, au niveau des contentieux, on nous demande d'avoir des témoins. Nous, Mouvement Bleu, nous aurons des témoins dans tous les bureaux de vote. Il y a 90 bureaux de vote. On nous a promis la cartographie depuis plus d'un mois. Maintenant, on attend. On nous dit que certains ont déjà cette cartographie. Donc là, je demande à M. Nanga, évidemment, de nous permettre d'accéder rapidement à cette cartographie pour que nous puissions nous préparer valablement et savoir où nos témoins doivent être. Dès le moment où vous avez des témoins, dès le moment où vos témoins ont des preuves qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas été fait, et dès l'instant où le dialogue règle le problème de la Cour constitutionnelle, alors on peut aller de l'avant. Donc, apportons des solutions. Ne restons pas toujours à des jérémiades, des plaintes, comme si on ne peut pas aller de l'avant. Et je considère que mon job, en tant que prochain président de la République, c'est d'apporter des solutions.
Professeur Jean-Paul Moka, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Fin de grande interview sur Radio Okapi. Cette émission vous a été produite grâce au concours de Alain Irung et Donna Madimba, sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Michel Kifindangoy vous l'a présenté et Polydor Basunga était à la prise des sons. Merci de rester fidèle à Radio Okapi, fréquence de la paix. Nous prenons rendez-vous pour un nouveau numéro à samedi prochain. Même heure, même fréquence. Radio de la paix, merci et au revoir.